Radio Capi, grand témoin. Avec le même plaisir, pour le même devoir, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Pierrot Mwandamvumbi. Il est coordonnateur provincial de la Société civile du Congo central, SOSICOC. Monsieur Pierrot Mwandamvumbi, merci de nous recevoir chez vous.
Merci, bienvenue madame.
Merci. Alors, on va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Capi. Vous êtes coordonnateur, je l'ai dit, de la Société civile du Congo central. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer la Société civile? Hormis le fait que vous soyez coordonnateur de la Société civile, vous êtes aussi opérateur économique, vous êtes directeur des entreprises, vous avez été président de la FEC Bakongo et aussi député pendant la période de la transition plus 4. Ouais. On va en parler dans cette émission, mais on va commencer par une petite biographie de votre personne. Vous êtes originaire du Bakongo.
Oui, mais je dois vous dire, madame, que j'étais aussi PCA, président du conseil d'administration de la Régie des voies maritimes.
On en parlera lorsqu'on va évoquer votre parcours professionnel. Mais là, on commence par la petite biographie. Donc, vous êtes originaire du Bakongo, vous êtes né ici?
Je suis né à 5 km d'ici, un certain 21 décembre 1957. C'était plus précisément à Louki.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance à Louki?
Non, madame, j'ai passé la plus grande partie de mon enfance ici à Matadi. Je suis arrivé à Matadi à l'âge de 9 ans.
Avec ses parents?
Non, 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 c'est une femme comme vous qui a fait de moi ce que je suis. C'est ma grande sœur qui était professeure et qui m'a amené ici. À l'époque, j'avais 9 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai continué mon école primaire ici. J'ai terminé, je suis allé à l'université.
Parlons de vos études, vous avez fait quel genre d'études?
Madame, ça va vous surprendre. Ben, je suis chimiste de formation. J'ai une licence en chimie et biologie.
De quelle université?
De Lubumbashi.
Et pourquoi ça devrait me surprendre?
Bon, ça devrait vous surprendre parce que ce que je fais à l'université, c'est pas ce que je fais maintenant. Et je n'ai jamais eu la chance même de travailler dans un laboratoire. Mais c'est plus le monde
des... Pourquoi? Parce qu'on manque de laboratoires chez nous?
Non, madame, c'est plus le monde des affaires qui m'attirait.
Pourquoi vous n'avez pas fait l'économie?
Oui, madame, je tenais à faire la médecine. Mais bon, il s'est fait que à Kinshasa, je n'ai pas trouvé de la disponibilité au niveau de l'université de Kinshasa, donc à l'INIKIN. Et après, je suis allé à Lubumbashi pour ne pas perdre l'année. Alors là, je fais la chimie et la biologie dans le souhait de réintégrer la médecine. Mais j'ai pris le goût de la chimie. Mais quand je suis rentré au Bakongo, malheureusement, je n'ai pas trouvé vraiment...
Un emploi qui correspondait aux études.
Alors là j'ai dispensé cours. J'ai dispensé cours à Lukala, ici à Matadi.
Le cours de chimie.
Cours de chimie et de biologie. Mais vous serez encore étonné que j'ai eu à dispenser aussi le cours d'anglais.
Vous parlez bien anglais?
Oui, parce que je parle couramment l'anglais.
Vous avez appris ça où?
Eh bien, j'ai appris l'anglais à Kali, à Kinshasa. Et l'anglais aussi qui m'a propulsé dans les affaires. Et donc après, j'ai enseigné. Et après, j'ai été engagé dans une entreprise import-export ici à Matadi, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et 10 ans après, j'ai démissionné pour monter ma propre entreprise jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Dans quelles conditions vous avez grandi?
Eh bien, dans des conditions modestes. Dans des conditions modestes avec une maman, vraiment comme toute maman africaine, qui veut que son enfant soit bien éduqué. Des parents sévères, bien entendu, parce que ses parents tenaient en éducation. Surtout ma mère vraiment qui voulait voir devant elle un enfant évoluer, un enfant qui a étudié pour faire son honneur.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Madame, c'est l'affection que les parents oui, avaient envers moi, à moi particulièrement. Et donc, quand je voyais ma mère, parfois, me prendre dans ses bras pour me consoler pour tel ou tel chagrin, et bien là, vraiment, ça m'affectait. Hein, ça m'affectait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai gardé ces très bons souvenirs. Et cette mère, elle est encore en vie et elle continue à me dorloter.
Si elle peut nous suivre en ce moment, maman, bonjour et merci pour le travail accompli. Alors, vous étiez quel genre d'enfant?
Eh bien, pas un enfant turbulent, mais un enfant...
Docile?
Très docile. Et c'est ce qui m'a permis aussi... d'acquérir toutes les bénédictions des parents. Un enfant docile, ça c'est vrai, mais à ce moment, j'ai eu un peu de turbulence, parce que, tu vois, j'ai quitté l'Ouki pour venir à Matadi en Evan, et donc c'était un monde nouveau qui s'ouvrait devant moi. Et donc là...
Vous étiez curieux de découvrir
curieux un peu de tout, faire un peu de la musique, jouer au foot, et c'est ce qui a...
Vous avez forcé de la musique?
Un peu.
Dans les groupes du quartier.
Dans les groupes du quartier. Et même quand je suis allé à l'école secondaire, à l'internat, nous avions un orchestre, à l'université aussi.
Vous étiez chanteur?
Oui, oui.
Et vous jouez?
Non, j'étais chanteur. Mais
quelle
ça...
voix?
Madame, vous savez, c'est tout un parcours, c'est toute une vie, mais tout cela réuni fait qu'aujourd'hui je sois la personne qui parle avec vous.
Vous avez déjà commencé à nous parler de votre parcours, votre carrière professionnelle. Vous venez de dire tout à l'heure que vous avez commencé votre carrière dans une entreprise import-export.
Oui.
À Matadi.
À Matadi, où je ne voulais pas citer l'entreprise.
Il n'y a pas de problème.
La publicité, où je passais pratiquement 10 ans. Et là, j'ai commencé en 79. Et là, j'étais encore célibataire. Mais rapidement...
C'est lorsque vous avez quitté l'université
non,
vous êtes revenu à Matadi.
Oui, mais j'ai enseigné. J'ai enseigné 2 ans. Après, maintenant, je suis entré dans l'entreprise.
L'enseignement ne vous avait pas plu?
L'enseignement m'a plu parce qu'il fallait quand même rendre l'ascenseur à ceux-là qui ont fait de moi ce que je suis. Mais bon, écoutez, quand on grandit, on évolue, il y a toujours des sollicitations. Et à l'époque, madame, en 79, c'était pratiquement les booms économiques de notre pays. Et donc là... les imports, exports florissaient dans notre pays et j'étais sollicité d'abord parce que je parlais bien l'anglais. J'étais sollicité parce que cette entreprise était une entreprise de sujet pakistanais. Et donc, ma façon de parler l'anglais les a attirés et donc je suis entré dans l'import export. J'ai fait travailler pendant 10 ans. D'ailleurs, je vais me marier.
Tout en travaillant dans cette entreprise.
Tout à fait. En 1980, je vais me marier avec madame Mambuku, ma chère épouse.
Vous avez combien d'enfants?
Nous avons 4 enfants. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans. Et 10 ans après, j'ai dosé mes capacités. J'ai trouvé que j'étais capable de monter ma propre entreprise. Et je l'ai fait. Jusqu'aujourd'hui.
10 ans, c'était suffisant pour que vous puissiez acquérir une certaine expérience et monter votre propre entreprise?
Madame, ça dépend. Ça dépend d'abord de l'entreprise que vous voulez monter et ça dépend aussi de vos capacités. Mais je crois que je me suis senti capable de faire ce que je fais en ce moment-là parce qu'il fallait le faire et j'avais cette compétence.
Et c'est une entreprise import-export que vous avez aussi montée?
Oui, j'ai monté une entreprise import-export, c'est une agence en douane, le Sogetracy. En même temps, je faisais le transport et après, j'ai diversifié les activités. Donc, on devenait un groupe. J'ai monté des chambre froide un peu partout, à Kinshasa, à Matadi, à Boma, et je commençais à faire l'importation de ce qu'on appelle communément Biodi.
Ça vous a pris combien de temps pour monter toutes ces affaires?
Madame, quand la volonté est là, l'espace et le temps n'existent plus. Quand la volonté est là et les moyens sont là, on est capable de faire 1000 choses en un temps record.
Vous aviez les moyens?
Oui, j'avais les moyens. J'avais les moyens et cela m'a permis de...
Les moyens des 10 ans de travail que vous avez passé dans l'entreprise dans laquelle
oui,
vous avez
commencé. Madame, obtenir un crédit aussi c'était moyen. Vous pouvez obtenir un crédit bancaire et vous monter une entreprise pourvu que le projet soit un projet potable. Dès lors que la banque juge que votre projet est potable, vous êtes financé. Et c'est ce genre de choses que nous voulons. Que ça revienne dans notre pays. Mais là, nous demandons aussi que les taux d'intérêt soient revus à la baisse. Parce qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient de 8%. Et maintenant, le taux d'intérêt est à 21%. Donc, vous comprenez que plus les taux d'intérêt augmentent, moins nous aurons des entrepreneurs.
Radio Capi, grand témoin.
Monsieur Pierrot Mwanda Mvumbi, vous êtes coordonnateur provincial de la société civile du Congo central, SOSICOC. Qu'est-ce que vous a attiré dans la société civile?
Madame, j'ai toujours aimé la vie associative. Je vous dis, lorsque j'ai monté mon entreprise import-export, j'ai fondé l'association qu'on appelle aujourd'hui IDEDO, l'Union des déclarants en douane. Et je crois que ce syndicat existe jusqu'aujourd'hui. J'en suis le fondateur et personne ne peut me dénier.
Vous en êtes fier?
Oui, oui, j'en suis fier parce que j'ai fait quelque chose qui dure et qui est apprécié. Et au jour d'aujourd'hui, c'est l'interlocuteur numéro un dans le secteur portuaire ici au Bas-Congo. Donc, j'ai monté ce syndicat-là. Deux mandats après, j'ai laissé aux jeunes aussi de continuer parce qu'on ne doit pas s'éterniser aux affaires.
Mais c'était quoi le but pour Fizi en créant ce syndicat?
Oui,
il y avait beaucoup de problèmes qui se posaient.
Exactement. Madame, la ville de Matadi vit et respire par les ports. Et donc, l'activité économique de la ville de Matadi dépend du port. Et tous les services qui sont ici, que ce soit les entreprises publiques ou les entreprises privées, ils ont des activités au port. Donc, il y a un monde dans cette activité-là. Donc, il fallait me réglementer cette activité-là, l'activité portuaire, et il fallait aussi qu'il y ait des gens formés pour pouvoir jouer les rôles d'intermédiaire entre l'importateur et la DGDA, l'ONATRA et l'OCC. Lorsque vous importez votre voiture, madame, il y a une procédure à suivre. Donc, il y a des professionnels de cette procédure-là. Et donc, je pensais qu'il était nécessaire que tout ces intermédiaires-là puissent se réunir et puis voilà, essayer un peu de moraliser la vie entre les importateurs et les services portuaires, donc les services de l'État.
Est-ce que ça marche?
Bien, aujourd'hui je ne suis pas aux affaires, mais je crois que madame, vous savez, toute chose va de pair avec la démocratie hein, que veut le chef de l'État. Donc il faut un temps, il faut un temps pour que les choses puissent évoluer.
Mais aujourd'hui, depuis 91 que ce syndicat existe.
Oui, le syndicat là, mais d'ailleurs, madame, vous avez suivi dernièrement, il y avait un problème avec l'évacuation d'office. C'est ce syndicat là, l'IDEDO, qui est monté au créneau pour dénoncer que la mesure prise par les gouvernements n'allait pas de pair avec la législation douanière. Il faut 15 jours pour que la marchandise sorte du port. Mais on était surpris de voir que la mesure qui était tombée ici, c'était 48 heures. Donc là, nous avons dénoncé, donc la corporation avait dénoncé au jour d'aujourd'hui. Je crois que le gouvernement est revenu sur les premiers principes, c'est-à-dire d'accorder 15 jours à l'importateur pour sortir son bien du port. Donc je peux vous dire que ça marche.
Alors on parlait des motivations qui vous ont poussé à adhérer à la société civile. Vous nous disiez que vous avez un esprit associatif.
Ah bien sûr, madame. D'abord, en commençant par fonder l'IDEDO, ça c'est l'esprit associatif. Et puis, j'ai été président de la FEC au niveau urbain et puis au niveau provincial. Donc ça, c'est toujours dans le monde syndical. C'est ça,
pendant 8 ans, vous avez géré la FEC.
Oui, j'ai géré la FEC pendant le Congo de 94 à 98. Et en même temps, j'ai géré de 90 à 98. Non, parce que j'ai dit, madame, c'est de 90 à 98, donc ça fait 8 ans. Autant j'étais président de la FEC, autant je suis président de l'IDEDO. Donc, vous voyez un peu quelles responsabilités j'avais dans le temps.
Et ce sont vos compétences qui vous ont aidé à gravir tous ces échelons.
Madame, c'est à vous d'apprécier. Ils m'ont donné ces mandats-là. S'ils l'ont renouvelé une fois, c'est parce qu'ils trouvaient à moi un interlocuteur valable. Quelqu'un qui défendait mieux les intérêts de la corporation. De même aussi quand j'étais président de la FEC, madame. Faire deux mandats, ce n'est pas une chose facile. Il faut mériter de la confiance de vos partenaires et puis de vos membres. Donc au jour d'aujourd'hui, je crois que l'État a fait ce qui se fait remarquer maintenant. C'est à vous d'apprécier.
Vous avez été aussi député national pendant la période de transition, oui. Pendant le 1+4.
Tout à fait.
Vous avez assisté aux négociations des Sandcity.
Tout à fait, madame. Merci. C'est à ma qualité de président de la FEC que j'ai été associé à la délégation du Bas-Congo. J'ai fait dire que c'est la délégation de la société civile. Et au retour des Sandcity, vous savez, le système qui était en place, il y avait une constitution de transition. Donc, il y a eu des accords immuables qu'on devait respecter. Mm-hmm. Vous avez remarqué en ce moment-là qu'il y avait la société civile qui était à la fois au gouvernement, qui était à la fois dans les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Et donc, moi, je suis resté au Parlement comme député pour la composante société civile. Tout en étant au Parlement, il a pu aux instances supérieures de notre pays de me nommer à la tête de la RVM. Alors là, j'ai quitté immédiatement le Parlement, une année après.
Donc pendant que vous étiez au Parlement,
oui.
On vous a nommé
président du conseil d'administration de la RVM.
Matadi, toujours.
Au Bakongo, parce que les sièges se trouvent à Boma.
Et à la RVM, vous êtes resté pendant combien de temps?
Madame, c'est de 2005 à 2008.
À 2008.
Oui, et après, j'ai regagné mes affaires. Et puis, j'ai regagné ma base qui n'est autre que la société civile, où j'étais. En tant que personne à ressources, j'ai été pris comme conseiller depuis 2007. Et c'est en 2008 que je prendrai la commande de la coordination provinciale de la société civile.
Alors, c'est une petite parenthèse que nous allons refermer très rapidement. Vous avez été aussi vice-gouverneur pendant quelques heures de la province du Bakongo.
Oui, j'ai été désigné par ma composante société civile à l'époque de 1+4. Il fallait qu'il y ait un gouverneur de la mouvance, donc de la majorité. Là, on parlait du MLC, du PPRD, disais-je, et donc un vice-gouverneur du MLC et un vice-gouverneur de la société civile. Mais cette page, c'est aussitôt refermée, parce qu'on devait céder le poste à la composante RCD à l'époque.
Alors, vous avez même prêté serment, et puis quelques heures après, on vous a dit non, c'est plus possible. Ce poste est réservé à une autre composante.
Tout à fait. Madame, c'est ça. Et c'est la politique qui gère le pays. Donc, les affaires politiques doivent être perçues comme cela. Et donc, cela ne m'a pas refroidi.
Sincèrement?
Non, madame. Non, madame. Je sais que j'ai fait partie de cette intelligentsia-là que détient notre cher pays. Et donc, le pays, à tout moment, il peut m'envoyer là où il a besoin de moi. Et à tout moment, le pays peut me retirer tout ce qu'il m'a donné. Donc voilà, ça ne m'a pas dérangé moralement, mais je suis resté sur ma conscience tranquille, mes dettes sur terre, ma tête sur les deux épaules. Et 6 mois plus tard, il a pris aux autorités du pays de me nommer à la tête de la région de Voie-Maritime.
Monsieur le coordonnateur, comment vous passez vos moments de détente?
J'aime le sport, la musculature. J'aime le sport, j'aime les amis.
Vous aimez le sport, vous avez été même président d'un club sportif ici.
Tout à fait, madame, j'ai fait deux mandats comme président de Tout Capable et Lima, que j'ai géré. Et donc j'aime bien le sport, c'est pour encadrer aussi la jeunesse. Nous avons beaucoup de talents qu'il faut arriver quand même à développer. Donc le sport, je l'aime bien, un peu de la musique. Oui, un peu de la musique aussi.
Quel genre de musique?
Vous voyez mon âge et vous pouvez deviner quel genre de musique je peux aimer.
Non, je ne peux pas deviner. Il y a des gens de votre âge qui aiment la nouvelle génération, Fally, Ferré, tout comme il y en a aussi qui aiment les anciens succès, Franco, Zaïko, Grand Calais. Oui, vous êtes dans quelle catégorie?
Je crois que c'est dans la catégorie Zaïko. Voilà.
C'est donc je comprends que vous aimez beaucoup la chanson, la musique des Zaïko.
Tout à fait, oui.
Vous êtes aussi un bon danseur?
Non, pas naturellement, mais j'aime bien regarder ceux-là qui dansent, voilà. Et là, je crois que maintenant j'ai l'âge pour plus éduquer, l'âge pour former, et donc je crois qu'à un certain niveau de la vie, bon, il y a quand même un comportement qu'il faut afficher et il y a aussi une hauteur à prendre.
Salana nuna makani si bano yokubota, nani yako bokolo. Baby.
Radio Capi, grand témoin.
Juste à rappeler aux auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment que nous recevons Pierrot Mwanda Mvumbi. Il est coordonnateur provincial de la Société civile du Congo central, SOSICOC. Monsieur le coordonnateur provincial, ça fait maintenant 4 ans que vous êtes à la tête du SOSICOC. Il y a un petit malaise au sein de la Société civile du Bas-Congo. Il y a un groupe qui vous conteste. Qu'est-ce qui se passe là?
Madame, d'abord, je vous dirais qu'il n'y a pas eu malaise. Parce que quand on parle de malaise, ça signifie que le staff dirigeant tend à une désintégration. Mais le staff dirigeant est là, le staff continue à travailler. Mais je dois vous dire quelque chose. Qu'au sein de la
société... Le staff est là, continue à travailler, mais les membres de la société
mais
civile...
Mais quel membre? Madame, c'est quel membre?
Ne vous font plus confiance.
Madame, c'est quel membre qui ne me font plus confiance? Je crois que là, il faudrait que je vous donne certaines dispositions statutaires. Donc, au sein de la société civile, nous avons 3 sortes de membres. Il y a les membres effectifs, donc les associations qui sont adhérés à la coordination. Parce que c'est pas un problème des personnes, mais la coordination, c'est un problème de structure. Donc ce ne sont pas les individus, madame. Ce sont les structures, organisées qui se sont réunies pour faire la coordination. Et ces structures sont composées par des membres. Donc, ce que nous appelons membres au niveau de la coordination, ce sont les structures, les associations qui sont affiliées à la coordination. Donc, je crois qu'il est important de faire ces distinguos. Et donc, là, nous avons les membres effectifs, dont la coordination qui est composée de 18 membres. Et puis, nous avons les membres sympathisants, donc des gens qui n'ont pas déposé les dossiers à la coordination. Donc, partant de là, il y a les membres effectifs, donc les associations qui sont en ordre de cotisation et qui ont régulièrement déposé leurs dossiers à la coordination. Il y a des membres sympathisants, des gens qui sympathisent, mais qui n'ont pas encore déposé les documents. Et puis
mais
il y a les membres
de la société civile.
Dans l'ensemble. Mais au niveau de l'exécutif de la coordination, ils n'y sont pas et ils n'ont pas droit ni au vote, ni à être élus. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions.
Et donc ce comité de crise qui s'est créé là n'a ni droit au vote, ni droit de dire quoi que ce soit sur la marche même de la société civile au niveau du Bas-Congo.
Madame, nous avons beaucoup de respect à la Constitution. Nous avons beaucoup de respect envers les droits de l'homme. Toute personne, d'ailleurs c'est les droits le plus primaire. Doit à la parole, mais il faut savoir qu'est-ce que vous réclamez, qu'est-ce que vous dites et qui êtes-vous. Ici, on parle d'un comité de crise, mais un comité de crise composé de qui?
C'est ça. Des membres de la société civile.
Avec quel statut? Non, madame, pour que nous soyons coordination de la société civile du Bas-Congo, nous avons des documents, nous avons un statut, nous avons un règlement intérieur, nous avons toutes les autorisations. Donc, ce n'est pas par le fait que... Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un s'adresse, dit que je suis telle association, je n'en vais pas à tel monsieur qui doit être considéré en tant que tel. Non, madame. Au niveau de notre organisation, et je dois vous rappeler d'ailleurs que chaque province a son statut. Les statuts ne sont pas uniformes. Chaque société civile parle. D'ailleurs, madame, vous parlez aujourd'hui d'un groupe, mais moi je vous parlerai des groupes. Parce que déjà en 2006, nous avions 7 sociétés civiles, madame. 7! 7 sociétés civiles dans cette ville de Matadi. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait 7 comités de crise. Mais nous avons fait un effort pour que la société civile soit unifiée pour des raisons d'efficacité et de responsabilité.
Mais même si vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a un problème au sein de la société civile du Bas-Congo, qu'est-ce que ces gens-là réclament? Qu'est-ce que le comité de crise réclame?
Madame, c'est vous qui me posez la question. C'est à vous de me demander, de me dire ce qu'ils réclament, parce que c'est vous qui m'apportez et qui m'apportez.
Mais vous êtes au courant quand même de ce qui se passe.
Madame, mais je me suis exprimé. J'ai dit que ces gens-là, pour nous, les comités restent intacts et que ces gens-là n'avaient ni les droits d'être élus, ni les droits de voter. Et que ce qu'ils ont fait, c'était contre le statut. Je me demande, madame, mais il y a des ministères ici en province. Mais comment pouvez-vous laisser des gens fonctionner sans aucun document? Je crois que la première démarche aurait été, à mon avis, que vous fassiez cette investigation de voir si réellement ils sont en train de fonctionner normalement, s'ils ont tous les documents requis. Je préfère m'éteindre sur ces points-là.
Alors, moi, j'ai fait ma petite enquête, M. Pierrot Mwanda Mvumbi.
Oui.
Vous avez été candidat sur la liste d'un parti politique alors que vos textes l'interdisent.
Madame, quel texte est...
On ne peut pas être membre de la société civile et se présenter candidat sur la liste d'un parti politique.
Madame,
vous quittez la société civile.
Non,
soit vous adhérez à ce parti politique.
Non, madame, tous les membres...
Vous ne pouvez pas combiner les deux, quand même.
Oui, madame, je dois vous éclairer. Vous savez, il y a parfois un aperçu que nous ignorons. Nous devons faire un effort. Le processus démocratique qui est engagé doit être bien appréhendé. Madame, tout membre de la société civile est membre d'un parti politique. Pourquoi? Ils sont électeurs. Vous ne pouvez pas aller élire quelqu'un donc vous ignorez les programmes. Vous n'allez pas me dire ici que quand on est société civile, on ne peut pas les élire.
Vous pouvez
oui,
bien.
Oui, madame. Donc, d'emblée, d'entrée de jeu, je vous dis, tout membre de la société civile est électeur. Et de surcroît, il est membre d'un parti politique. C'est qu'on demande. Et ça c'est très important, madame.
Oui, allez-y.
Je sais ce que j'ai dit. Madame, ce qui n'est pas recommandé, c'est d'exercer des fonctions exécutives au sein de ces partis. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons élire un député, nous devons élire le chef de l'État. Mais la société civile, c'est tout le monde. C'est la conscience communautaire. Quand on parle société civile, mais c'est toute la population, madame. Quand on parle de la société qui est les défenseurs des sans-voix, mais les sans-voix, ce n'est pas seulement le petit peuple qui est à la cité. Les sans-voix, c'est aussi certaines personnes qui, par leur travail, ne peuvent pas s'exprimer.
Est-ce que ce comité des crises n'a pas raison quelque part? Vous vous présentez sur la liste d'un parti politique.
Vous m'arrachez la parole.
Non, excusez-moi, je vais vous donner la parole. Vous vous présentez sur la liste d'un parti politique. De l'autre côté, vous cessez avec vos activités au sein de la société civile.
Ok. Madame, maintenant laissez-moi vous répondre. Je crois que vous allez m'accorder un peu de temps.
Oui, allez-y. Allez-y, je
voilà. En juillet 2011, nous avons eu un atelier à la Monusco où nous avons désigné les team leaders. Et là, nous avons compris quelque chose. Les politiques viennent puiser à la société civile et quand ces gens-là partent, ils ne font plus les feedback. Alors, la difficulté que nous avons, nos sociétés civiles, au jour d'aujourd'hui, c'est un problème de lobbying. Lorsque nous devons parler d'un problème, nous n'avons pas de répondants là où c'était les décisions. Alors que nous avons eu à produire beaucoup de cadres. Nous avons eu à produire beaucoup de personnes ressources. Et lorsque ces gens arrivent aux affaires, ils oublient leur base. Je ne vous apprends rien. Même dans l'actuel gouvernement, vous verrez beaucoup de membres de la société civile. Mais je dois vous dire, madame, que ces gens-là se réfèrent à leur base. Donc, il a été convenu. Il a été, comme ça, je le répète, il a été convenu pour cela, à ce que nous puissions créer une dynamique que nous avons appelée Socialec. Dans cette dynamique-là, nous avons dit une chose. Nous allons signer des contrats avec les partis politiques. Uniquement pour les élections. Nous allons présenter nos candidats, mais les candidats ne doivent pas obligatoirement adhérer à leur position. Donc, les candidats que nous allons présenter aussitôt élus, ils doivent se référer à la base, parce que là, nous sommes en train de construire une société civile des professionnels. Ils doivent se référer à la base, doit constituer d'abord la base pour pouvoir prendre et donner le point de vue sur cette décision de la prise. Donc, en effet, c'était un contrat qui s'ouvrait et qui se refermait. Alors, pour les cas du Bakou, madame, laissez-moi terminer, j'ai vu le temps. Pour les cas du Bakou, j'étais candidat, madame. J'étais candidat, malheureusement, bon, mais j'ai quand même fait un sport acceptable. Donc, s'il y avait trois sièges, j'ai passé. Mais comme ça n'a pété le cas, eh bien, madame, je me suis dit, nos statuts ne m'autorise pas de démissionner parce qu'il n'y a pas de texte. Il y a juste de communiquer, des lettres adressées par certaines personnes, les mêmes personnes que je ne voulais pas citer, non, ici, qui sont à Kinshasa. Une dame était aussi candidate dans la liste d'un parti politique. Au jour d'aujourd'hui, nos statuts disent ceci. Le coordonnateur fera la remise et reprise avec celui qui sera le coordonnateur élu. Les coordonnateurs en place, on ne parle pas d'intérimaire. Le coordonnateur convoque la réunion de l'assemblée élective.
Et pendant la, je vais vous donner la parole. Oui. Pendant la campagne électorale, lorsque vous êtes présenté sur la liste de ce parti-là, qui assumait la fonction de coordonnateur? Toujours vous?
Non, il y avait un intérimaire. Il y avait un intérimaire. Mais
comme ça n'a pas marché,
il n'a pas le droit de convoquer la réunion.
Et comme ça n'a pas marché pour vous à la députation, vous êtes revenu reprendre
non,
votre
madame,
place de coordonnateur?
Non, madame. Le coordonnateur AI n'a pas le pouvoir de convoquer l'assemblée élective. Donc, même si j'étais parti, je devais convoquer l'assemblée élective.
Mais est-ce que ce n'est pas ça qu'il fallait faire?
Comment?
Convoquer d'abord
oui,
l'assemblée
madame,
élective?
C'est ce qu'il fallait, madame, c'est ce qu'il fallait faire. Je dois vous dire, madame, avant que ces fameux comités de crise s'adressent, bien avant même les élections, j'ai écrit, nous avons écrit à tous les partenaires, dont la Monisco, ils ont notre correspondance. Nous avons écrit pour demander le soutien afin d'organiser les élections dans les délais impartis. Malheureusement, madame, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun partenaire n'a bougé. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour chercher le financement. Dès lors que nous avons le financement, madame, noir sur blanc, nous allons organiser les élections et je dois vous dire...
Vous êtes vous-même candidat à votre propre
situation? Non, madame, je crois que la province a besoin de moi, je sais, mais c'est aussi donner aussi la chance à d'autres d'acquérir cette expérience de diriger une coordination.
Et lorsque vous allez quitter la coordination, vous allez beaucoup plus vous intéresser à vos entreprises, vos sociétés?
Non, madame, tout en étant coordinateur, je gère bien mon travail. Je dois vous dire que je suis directeur des sociétés de Congo Oil and Derivatives, installée à Boma. C'est une raffinerie d'huile de palme. Donc, c'est une grande entreprise. Nous produisons la marque Huile d'Afrique. Donc, mais je dois vous dire quelque chose, madame, que j'ai beaucoup de respect envers la société civile. Je dois tout à cette société civile. Quand bien même je dois quitter la coordination, mais je restais toujours comme personne de ressources.
Quand bien même certaines personnes disent qu'il n'existe pas de société civile en RDC, la société civile est politisée. Soit elle penche du côté de l'opposition, soit elle penche du côté de la majorité.
Oh, madame, je vais dire quelque chose tout au début. Il y a un processus démocratique dans les pays. Il faudra un temps pour que la population soit éduquée, civiquement et politiquement aussi. Dire qu'il n'y a pas de société civile en Haïti, non, madame. Vous savez, nous devons éviter d'intoxiquer la population. La société civile, c'est l'église au milieu du village. Lorsqu'il s'agit de faire notre travail, nous le faisons en toute liberté. C'est-à-dire quoi? Dénoncer. Et faire les plaidoyers. C'est ça le rôle de la société civile. Nous ne sommes pas aux affaires. Mais nous regardons, lorsque le peuple, d'une manière souveraine, a élu ses dirigeants, nous sommes là pour veiller sur ces dirigeants-là, voir comment ils vont respecter ce qu'ils ont promis à la population. Mais quand il y a dérive, on dit, ah mais écoutez, vous avez dénoncé, vous êtes de l'opposition. Et lorsqu'on apprécie un acte posé par le pouvoir ou par le gouvernement. Ah non, mais on vous a acheté, vous avez produit ceci. Donc, c'est un travail que nous devons faire quotidiennement, que la société puisse comprendre les rôles de la société civile. On n'est pas de l'opposition, madame. Donc, les gens veulent voir une société civile qui ingère les autorités. Non, madame, cela ne nous caractérise pas. Ça ne nous habite pas, madame. Et encore moins, ça nous ressemble. Mais nous sommes là pour veiller à la moralisation de la vie politique de notre pays. Que les dirigeants se sentent être redevables. C'est la redevabilité. Vous avez été élu pour un mandat de 5 ans. Eh bien, nous vous suivons et nous vous regardons à la loupe. Nous voyons votre programme, si réellement vous les respectez. Le Parlement vote un budget. Nous voyons que ce budget n'est pas respecté. Mais nous avons le droit de dénoncer pour permettre ceux-là qui sont aux affaires de rectifier les tirs. Ça, c'est le travail de la société civile. Donc au jour d'aujourd'hui, madame, vous n'allez pas me dire que la société civile ne fait pas son travail. Nous le faisons, mais il faut que la population comprenne le rôle de la société civile. Ce n'est pas en montant au créneau, injurier les autorités. Non, madame, ce n'est pas ça.
Radio Capi, grand témoin.
Piro Mwandambumbi, coordonnateur provincial de la société civile du Congo central. Ça fait 4 ans que vous êtes à la tête de la coordination. Comment vous jugez le travail du gouvernement provincial?
Ben, écoutez, madame, d'abord, nous sommes dans une phase de transition. Donc, il y a eu un gouverneur qui a été élu et qui est parti. Maintenant, il est député. Il avait un programme. Bon, ils ont présenté un programme qu'ils n'ont pas réalisé. Ou qu'ils ont réalisé, mais à un pourcentage vraiment très bas. Donc, nous pensons que prochainement, il faut communiquer, parce que vous avez été élu par cette population-là, ils doivent savoir ce que vous faites, et puis vous devez être redevable. Donc il faut que vous rendiez compte à cette population. Donc, bref, le bilan, il est mitigé.
Alors au niveau de la société civile, est-ce que vous avez un programme pour la jeunesse du Bas-Congo?
Oui, mais les projets, ils sont là. Hein. Les projets, ils sont là. Nous avons un programme, comme je vous ai dit. Nous ne sommes pas une société civile génératrice de recettes. Hein? Et donc, nous travaillons toujours avec les partenaires. Il y a beaucoup de nos associations liées aux jeunes qui ont fait des projets que nous attendons aboutir. Mais c'est des projets d'éducation, des projets de formation pour les jeunes. Vous savez, il y a maintenant les phénomènes Kuluna, dont nous sommes là en train de voir comment nous pouvons encadrer nos enfants, ces enfants-là, qui, sans le vouloir, se sont retrouvés sur ce tracé-là, comment les réinsérer dans la société active et éventuellement aussi être compté parmi ceux-là qui doivent un jour diriger les pays. Donc, nous avons un très grand programme, très vaste. Nous attendons le financement pour la jeunesse.
Piero Mwandambumbi, je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial de la société civile du Congo central, SOSICOC. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Un mot à tous ces auditeurs des Radio Capi que nous suivons en ce moment, particulièrement ceux des Matadi.
Oui, un grand coucou à tous les auditeurs de Radio Capi. Je dois vous dire que la Radio Capi, c'est une radio bien équilibrée. C'est vraiment l'église au milieu du village. Vous avez de très bonnes émissions. J'étais surpris hein, de vous voir atterrir chez moi. Je sais que c'est un plaisir réel que vous m'avez fait. En tout cas, madame, c'est un grand plaisir et vraiment, nous accordons beaucoup de chance à la Radio Capi. Beaucoup de chance, mais surtout en cette période difficile que traverse notre pays, nous aimerions que Radio Capi soit beaucoup plus présente aussi à l'est du pays.
Merci.
Merci.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Piero Mwandambumbi. Il est coordonnateur provincial de la société civile du Congo central. Merci à Guy Roger Nyampala qui nous a aidé à préparer cette émission. Paul Vadianyama a été à la technique, au micro Kéline Kouté. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.